Chapitre 25. Elle a davantage besoin de cette nourriture que nous. Raoden toisait Orena d'un regard sceptique. La fille d'Ahan, toute menue, ses cheveux roux protégés par un foulard rouge, portait une robe bleue sans apprêt qu'elle avait dû emprunter, vu l'extravagance de la garde-robe des dames aréloises, à l'une de ses servantes. « Soyez aimable avec elle !» Sa reine lui tendit une caisse prise sur la charrette. « C'est la seule qui a eu le courage de nous accompagner, même s'il a fallu que je prie Shuden de le lui demander. Si à cause de vous elle s'en va, aucune autre ne voudra jamais venir. » « Bien, Votre Altesse !» Il s'inclina. Passer une semaine ensemble à distribuer de la nourriture semblait avoir amélioré leur relation, mais la princesse lui témoignait toujours de la froideur. Elle répondait à ses commentaires, elle acceptait de discuter avec lui, mais elle refusait ses offres d'amitié. Raoden passait une semaine irréelle. Après s'être adapté à la nouveauté et à l'étrangeté des Elantris, il devait s'habituer de nouveau aux familiers. C'était pire. S'il pouvait accepter la cité maudite comme source de chagrin, il avait beaucoup plus de mal à le tolérer de la part de ses amis. Shuden, la main sur le coude de Torena, l'encourageait à s'approcher de la file. Le Jindoé solennel avait été un de ses meilleurs amis. Ils avaient eu d'interminables discussions sur les problèmes sociaux de l'Arelon. Or, c'était à peine si le jeune noble avait conscience de son existence désormais. Il en allait de même pour Eondel, Kin, Royal, et même Lukel. Tous avaient été les fiers compagnons du beau prince Raoden, et n'avaient aucun lien avec le pauvre air dénommé Esprit. Il n'en concevait nulle amertume. Il ne pouvait les blâmer. Lui-même se reconnaissait à grand-peine, avec sa peau ridée et son corps décharné. Même sa voix avait changé. Dans un sens, la façade qu'il devait maintenir lui faisait plus mal que leur ignorance. S'il se démasquait, la nouvelle de sa survie détruirait l'Arelon. Il se savait plus populaire que son père. Certains suivraient leur prince chéri, même devenu élantrien. Une guerre civile ne bénéficierait à personne, et au bout du compte, Raoden finirait sans doute décapité. Non, il devait rester caché. Découvrir son sort plongerait ses amis dans le chagrin et la confusion. Mais dissimuler son identité requérait une solide vigilance. Son visage et sa voix avaient changé, pas ses manières. Il évitait donc ceux qui le connaissaient et se montrait cordial, amical, mais réservé. Voilà pourquoi il gravitait vers sa reine. Elle n'avait jamais connu le prince Raoden, et il pouvait se dispenser de jouer la comédie en sa présence. Il s'agissait d'une mise à l'épreuve. Il voulait savoir comment il se serait entendu en ménage, sans l'obstacle des nécessités politiques. Ses sentiments initiaux paraissaient avérés. Il appréciait la jeune femme. Ce que ses lettres promettaient, elle le réalisait. Elle n'avait rien des dames qu'il avait eu coutume de côtoyer à la cour d'Arelon. Forte, décidée, sans la moindre amertume dans le regard, elle gardait la tête droite lorsqu'un homme, quel que soit son rang, lui parlait. Elle donnait des ordres avec aisance et naturel, et elle ne feignait jamais la faiblesse pour attirer l'attention. Pourtant, les seigneurs la suivaient. Eondel, Shuden, Royal même. Tous en déféraient à son jugement, au point de lui obéir comme au roi en personne. Jamais eux non plus n'avaient la moindre amertume dans le regard. Sa courtoisie engendrait leur générosité. Raoden, étonné, ne pouvait qu'en sourire. Il avait mis des années à mériter la confiance de ses hommes. Sa reine s'était acquittée de cette tâche en quelques semaines. En tout, elle était impressionnante, par son intelligence, par son énergie, par sa beauté. Si seulement il avait pu réussir à la convaincre de ne pas le détester. Il soupira et se remit au travail. Hormis Shuden, tous les aristocrates réunis participaient pour la première fois. Pour la plupart, il s'agissait de nobliaux à quelques exceptions près, dont Tellery, qui, debout à l'écart, observait la distribution d'un œil blasé. Il avait amené un serviteur pour éviter tout labeur. Raoden n'avait jamais aimé le duc, qu'il avait approché un jour en espérant l'enrôler dans leur coalition. L'autre s'était borné à bâiller et à demander combien le prince paierait son soutien. Puis il avait ri quand son interlocuteur furieux l'avait planté là. Raoden se demandait encore si Tellri lui avait posé la question par cupidité ou s'il avait anticipé sa réaction. Comme d'habitude, les nouveaux venus formaient un petit groupe craintif tout autour de la charrette qu'il venait de décharger. C'était à lui de jouer. Il s'avança en souriant, se présenta sous son nom d'emprunt et entreprit de leur serrer la main, le plus souvent contre leur volonté. Mais bientôt, leur tension diminua. Il existait au moins un élantrien peu enclin à les dévorer, et leur peur de l'infection apparaissait infondée, puisque aucun de ceux qui effectuaient la distribution n'avait succombé au Shaod. L'affabilité de Raoden les détendait. Acclimater les nobles lui était échu. Dès le deuxième jour, il devenait apparent que sa reine possédait moins d'influence sur les autres aristocrates que sur Shuden et l'ancien cercle du jeune prince. Sans son entremise, le groupe serait sans doute resté figé autour de la charrette. La jeune femme s'était bien gardée de le remercier, mais elle avait salué ses efforts d'une inclinaison de tête. Dès lors, il était entendu qu'il aiderait chaque nouvelle fournée de nobles comme il l'avait fait pour celle-là. C'était bizarre de contribuer à l'événement qui détruisait tout ce qu'il avait accompli ici. Mais hormis créer un incident diplomatique, il ne pouvait arrêter sa reine. En outre, Maresh et Karata recevaient des biens d'une importance vitale contre leur coopération. Il faudrait reconstruire bien des choses après cette épreuve de la veuve. Pourtant, cela en vaudrait la peine, à condition bien sûr qu'il survive assez longtemps. Ce rappel des involtes raviva la conscience qu'il avait de sa souffrance. Elle ne le quittait jamais. Elle consumait et sa chair et sa résolution. Elle prenait des formes diverses, dont chacune se singularisait par une douleur spécifique. Et à ce qui lui semblait, elle s'aggravait plus vite pour lui que pour tout autre. Une égratignure au bras semblait une entaille de l'épaule au poignet, et l'orteil qu'il s'était cogné lui brûlait la jambe jusqu'au genou. Il avait l'impression d'habiter Elantris depuis un an, et non pas un mois. Mais peut-être n'était-elle pas plus forte. Peut-être était-il, lui, plus faible. En tout cas, il ne la supporterait plus guère. Le jour viendrait, dans un mois ou deux, où il ne se dégagerait plus de cette camisole et où ses amis devraient le porter dans la maison des déchus. Là, il aurait tout loisir de consacrer sa pleine et entière dévotion à cette maîtresse jalouse. Il chassa ses pensées et se mit à distribuer la nourriture. Se forcer à travailler le distrayait un peu, mais il sentait encore la douleur en lui, telle une bête tapie dans l'ombre, ses yeux rouges, observant sa proie avec une faim avide. Chaque élantrien recevait un sachet plein d'aliments prêts à consommer. Les portions du jour ressemblaient à celles des précédents, même si, chose surprenante, sa reine avait déniché des melons Jindoé, gros comme le poing, les fruits rouges au goût amer, censés être hors saison, luisait dans la caisse posée près de lui. Il en plaçait un dans chaque sachet, avec du maïs cuit à la vapeur, des légumes et une miche de pain. Les élantriens acceptaient ces offrandes d'un air reconnaissant et vorace. La plupart s'éloignaient aussitôt pour être seuls. Ils n'arrivaient pas à croire qu'on les laisse manger en paix. Un visage familier apparut dans la file. Galadon portait ses haillons habituels et un manteau fabriqué avec des bouts d'étoffe récupérés. Le Dula tendit le bras de sorte que le pan de son habit dissimule l'échange que le prince opérait entre ce sac vide et un autre, rempli de 5 fois la part normale et si lourd qu'un bras d'élantrien aux muscles atrophiés peinait à le soulever. Le colosse se fondit dans la foule et disparut. Saolin, Maresh et Karata viendraient aussi pour recevoir un même sac. Ils mettraient de côté ce qu'ils pourraient avant de donner le reste au Oed. Certains parvenaient encore à reconnaître la nourriture. Raoden espérait que s'alimenter régulièrement les aiderait à recouvrer la raison. Jusque-là, cet espoir s'avérait vain. Le portail se referma avec un bruit sourd qui évoqua en lui le souvenir des premiers jours à Elantris. Alors sa souffrance n'était qu'émotionnelle et plutôt mesurée. S'il avait deviné où il s'aventurait, il se serait sans nul doute roulé en boule et joint au Oed dans l'instant. Il tourna le dos au vantaux. Maresh et Galadon, debout sur l'esplanade, contemplaient les caisses que Saren avait laissées là pour répondre aux dernières exigences de Karata. « Par pitié, dites-moi que vous avez trouvé le moyen de les transporter, » dit-il en rejoignant ses amis. Les autres fois, ils avaient dû les transbahuter une par une jusqu'à la nouvelle Elantris, une torture pour leurs muscles atrophiés. « Bien sûr !» l'artisan émit un reniflement de dédain. « Je crois, du moins. » De derrière un tas de gravats, le petit bonhomme tira une feuille de métal dont les quatre côtés se relevaient un peu. Il y avait trois cordes attachées à l'avant. « Un traîneau ?» demanda le Dula. « Au fond enduit de graisse, je n'ai pas trouvé une seule roue dans tout Elantris qui ne soit brisée ou rouillée. Mais ce travois devrait faire l'affaire. Et puis, la boue va le lubrifier et nous aider à le tirer. » Galadon grogna, ravalant de toute évidence une remarque sarcastique. Aussi mal que fonctionne l'engin de Maresh, il vaudrait mieux s'en servir qu'effectuer une douzaine d'allers-retours entre l'esplanade et la chapelle. En fait, il fonctionna plutôt bien. La friction fit disparaître la graisse, les rues rétrécirent au point qu'on ne put éviter les portions dépavées et il s'avéra bien difficile de négocier les artères bien nettoyées de la nouvelle Elantris. Mais même le Dula dut admettre que le traîneau leur avait économisé pas mal de temps. « Enfin, un truc utile » grommela-t-il une fois qu'ils eurent rangé leur véhicule devant la chapelle. Maresh affectait l'indifférence, mais une lueur de plaisir passa dans ses yeux. Galadon refusait de lui reconnaître une quelconque ingéniosité, pour éviter, disait-il, de flatter son amour-propre. Raoden, lui, estimait que l'artisan ne pouvait pas devenir plus prétentieux. « Voyons ce que la princesse nous envoie cette fois, » dit-il en forçant le couvercle de la première caisse. « Attention au serpent !» prévint le Dula. Le jeune homme s'esclaffa et laissa choir le couvercle sur les pavés. La caisse contenait plusieurs rouleaux d'étoffe, tous du même orange criard. Galadon fronça les sourcils.
« Sulé, ce doit être la couleur la plus révoltante que j'ai jamais vue.
« J'en conviens, » dit Raoden avec un sourire.
« Tu n'as pas l'air si déçu que ça.
« Oh, je suis révolté, mais cela m'amuse de découvrir les moyens qu'elle trouve pour nous contrarier. » Le Dula grogna et s'approcha d'une autre caisse tandis que le jeune homme soulevait un pan de tissu pour l'examiner d'un œil critique. Difficile d'imaginer plus laid, en effet. La manière dont sa reine satisfaisait aux demandes des chefs de bande tournait à la farce. Maresh et Karata passaient des heures à élaborer leurs exigences, mais la princesse trouvait toujours le moyen de les blouser.
« Tu vas adorer !»
Galadon secoua la tête en considérant le contenu de sa caisse.
« Quoi ?»«
Notre acier !»
La dernière fois, ils avaient demandé 20 feuilles de métal. Sa reine les leur avait livrées si fines qu'elles planaient quand on les laissait choir. Ils avaient donc choisi de le réclamer au poids, dorénavant. Tendant la main, le Dula sortit de la caisse une poignée de clous, tordus.
« Il doit y en avoir des milliers. »
Raoden éclata de rire. « Bon, je gage qu'on leur trouvera une utilité. » Par chance, Éonic le forgeron était de ceux qui avaient choisi de lui conserver leur confiance. Sceptique, son ami laissa retomber les clous dans la caisse et haussa les épaules. Le reste des fournitures relevait un peu le niveau. La nourriture, plus très fraîche, restait comestible comme stipulé. L'huile exhalait une odeur atroce en brûlant. On se demandait où la princesse la dégotait, et les couteaux étaient tranchants, mais dépourvus de manches. « En tout cas, elle n'a pas encore deviné pourquoi on lui demande des caisses, » dit Raoden en les inspectant. Le bois paraissait dense et solide. Il pourrait le réutiliser une fois les réceptacles démantibulés.
« Je ne serais pas surpris qu'elle laisse le bois brut pour nous filer des échardes, » dit le Dula qui s'efforçait de démêler un écheveau de cordes. « Si cette femme était ton destin, Sulé, peut-être bien que ton domu t'a sauvé en t'envoyant ici.
Elle n'est pas si terrible. » Le jeune homme se redressa afin de laisser Maresh cataloguer leurs acquisitions. « C'est bizarre, messire, » dit ce dernier. « Quel intérêt de se donner autant de peine pour nous exaspérer ? Ne craint-elle pas de faire échouer notre accord ? Elle doit deviner notre position de faiblesse. Plutôt que de revenir sur sa promesse, elle répond à nos demandes, mais elle n'éprouve pas le besoin de nous satisfaire. Elle sait qu'on ne peut pas empêcher les gens d'accepter sa nourriture. » L'artisan hocha la tête et reporta son attention sur sa liste. Raoden ramassa le sac de nourriture destiné au Oed. « Viens, Galadon, allons voir Karata. » La nouvelle élantrice semblait évidée. Avant la venue de sa reine, elle comptait plus de 100 habitants, une population désormais réduite à une vingtaine d'individus, sans compter les enfants et les Oed. La plupart des restants étaient des nouveaux venus à Elantris, des gens secourus par Raoden, tels Saolin ou Maresh. Ils ne connaissaient que la nouvelle Elantris, et ils hésitaient à la quitter. Les autres, tous ceux qui l'avaient rejointe de leur propre initiative et ne ressentaient qu'une loyauté relative envers la cause de Raoden, étaient repartis dès que sa reine avait paru leur offrir mieux. Ils s'alignaient maintenant dans les rues qui débouchaient sur l'esplanade, à attendre la distribution suivante. Triste, Colo ? Le Dula considérait les maisons propres, mais désertées. Oui, dit le prince. Ce projet avait de l'avenir. Pendant une semaine. On y reviendra bien, Sulé. On a travaillé dur pour les aider à redevenir humains, et ils délaissent tout ce qu'ils ont appris. Ils attendent, le bec ouvert. Sa reine sait-elle que ces sachets de 3 repas ne leur durent que quelques minutes? Elle veut combattre la faim. Or, ces gens mangent si vite qu'ils se sentent mal durant des heures et affamés jusqu'au lendemain. Un corps d'élantrien ne fonctionne pas comme celui d'un individu normal. C'est toi qui l'as dit, Sulé. La faim est psychologique. Notre corps n'a aucun besoin d'alimentation. C'est le Dor qui nous soutient. Au moins, il n'explose pas. Au début, il redoutait que l'excès de nourriture provoque des ruptures d'estomac. Par chance, le ventre plein, le système digestif d'un élantrien repartait, sensible aux stimulations, comme les muscles. Continuant leur chemin, ils passèrent près de Kaar, qui, l'air content de soi, nettoyait un mur avec la brosse qu'il lui avait obtenue à la précédente livraison. Calme, paisible, il paraissait avoir à peine remarqué le départ de ses assistants. Il toisa cependant Raoden et Galadon d'un œil critique. Pourquoi Messire ne s'est-il pas changé? Le jeune homme considéra ses haillons d'élantrien. Je n'en ai pas eu le temps, car... Après tout le travail qu'a accompli maîtresse Maharé pour vous coudre des habits neufs? Entendu, Raoden sourit. Vous avez vu Karata? Elle se trouve à la maison des déchus, Messire, avec les Oed. Inspirés par la remarque du vieux Kaar, les deux amis se changèrent avant d'aller trouver Karata. Raoden s'en réjouit aussitôt. Il avait presque oublié la sensation que procuraient des vêtements propres, qui ne sentaient pas les ordures et ne disparaissaient pas sous une couche de crasse. Bien entendu, les couleurs laissaient quelque peu à désirer. Sa reine savait se montrer inventive dans ses choix. Il se mira dans un bout d'acier poli. Avec sa tunique jaune à rayures bleues, son pantalon écarlate et sa veste d'un vert bilieux, il évoquait un oiseau tropical. Sa seule consolation? Aussi ridicule qu'il paraisse, il y avait pire. Galadon. Le colosse noir considérait d'un air résigné sa vêture rose bonbon et vert tendre. « N'aie donc pas l'air si lugubre, » lui dit le jeune homme en riant. Les Dulas ne sont-ils pas censés apprécier les tenues bigarrées? L'aristocratie, oui, les citoyens et les républicains. Je suis fermier. Le rose n'est pas la nuance que je trouve la plus flatteuse. Colo? Il toisa son compagnon les yeux plissés. Si jamais tu t'avises de me comparer à un fruit de Qatari, j'ôte cette tunique bigarrée et je m'en sers pour t'étrangler. Raoden gloussa. Un jour, je vais croiser l'érudit qui m'a affirmé que tous les Dulas étaient d'humeur égale et le forcer à passer une semaine enfermé avec toi. Galadon grommela sans répondre. « Viens donc !» Et le prince sortit le premier de l'arrière-salle de la chapelle. Ils trouvèrent Karata assise à l'extérieur de la maison des déchus, et tenant du fil et une aiguille. Devant elle, une manche retroussée, Saolin exposait une profonde entaille qui courait le long de son bras. Il ne saignait pas, mais sa chair paraissait assombrie. Karata le recousait avec habileté. « Saolin ! » s'écria Raoden. Que s'est-il passé? Le soldat baissa les yeux, gêné. Il ne semblait pas souffrir. Sa plaie, pourtant, était si profonde qu'un homme normal se serait évanoui depuis belle lurette sous l'effet de la douleur, voire simplement de la perte de sang. « J'ai glissé, messire, et l'un d'eux m'a eu !» Le prince mécontent observait la blessure. La troupe du vétéran, formée d'individus bien trempés, peu enclins à fuir les responsabilités, avait moins diminué que la population de la nouvelle Élantris. Mais déjà peu nombreuse à l'origine, elle comptait juste assez d'effectifs pour surveiller les rues allant du territoire de Shaor à l'esplanade. Chaque jour, tandis que les Élantriens se gavaient des offrandes de sa reine, elle luttait pied à pied pour empêcher les bêtes humaines de la dite Shaor d'envahir l'esplanade. Parfois, on les entendait hurler dans le lointain. « Je suis navré, Saolin, » dit-il pendant que Karata continuait son ravaudage. « Ne vous en faites pas pour moi, » dit bravement le soldat, même si cette blessure qui handicapait son bras droit différait des autres. Il laissa passer un bref instant avant de reprendre la parole, en détournant les yeux. « Messire !»«
Oui ?»«
On a encore perdu un homme aujourd'hui, et on a eu du mal à les repousser. Sans moi, bref, on aura encore plus de mal, messire. Mes gars se battent bien, et ils sont équipés du mieux possible, mais on ne tiendra plus très longtemps. Je trouverai un moyen. » L'autre opina rasséréné. Le prince, peu sûr de mériter sa confiance, reprit « Comment as-tu pu écoper de cette plaie ? Je n'ai jamais vu les hommes de Shaor manier d'autres armes que des bâtons et des pierres. Ils ont changé, messire. Certains ont des épées à présent. Et si l'un de mes gars tombe, ils lui prennent ses armes.
Vraiment ?
Demanda Raoden en haussant les sourcils. Ah oui, messire. C'est important ?
Très.
Cela signifie que les hommes de Shaor sont moins bestiaux qu'ils ne voudraient nous le faire croire. Ils possèdent une faculté d'adaptation. Une partie de leur sauvagerie n'est qu'une façade, un rôle qu'ils jouent.
Un Doloken de rôle, ronchonna Galadon.
Peut-être pas un rôle. Ils agissent ainsi parce que c'est plus simple que d'affronter la souffrance. Mais si on pouvait leur tendre une perche, ils s'en saisiraient peut-être. On pourrait les laisser rejoindre l'esplanade, messire.
Saolin retint un grognement quand Karata acheva sa suture. Elle était compétente. Elle avait connu son mari en servant d'infirmière à un groupe de mercenaires. Non, même s'il ne tuait aucun aristocrate, la garde d'Élantris les massacrerait.
Et ça ne nous convient pas, Sulé ?
Demanda le Dula avec une lueur mauvaise dans le regard.
Du tout. Je pense que sa reine a un autre but que mener à bien son épreuve de la veuve. Chaque jour, elle amène ici des nobles différents, comme pour les accoutumer à Élantris.
Quel autre but ?
Karata, qui rangeait ses ustensiles, prenait la parole pour la première fois.
Je l'ignore, mais elle y tient. Une attaque des nobles par les hommes de Shaor détruirait ce qu'elle tâche d'accomplir. J'ai essayé de la prévenir que les Élantriens n'étaient pas tous aussi dociles que ceux qu'elle avait vus, mais je doute qu'elle m'ait cru. Il nous faut tenir ces sauvages à l'écart jusqu'à ce qu'elle en ait terminé.
Soit combien de temps ?
S'enquit Galadon.
Domus seul le sait. Sa reine reste bouche cousue. Sitôt que j'essaie de lui soutirer une information, elle prend la mouche.
Ma foi, Sulé, dit le Dula en considérant le bras blessé de Saolin, tu ferais bien de trouver une solution pour qu'elle en finisse au plus vite, ou de la préparer à affronter plusieurs douzaines de fous écumants.
Colo ? Raoden hocha la tête. Un point au centre, un trait quelques centimètres plus haut, un autre trait sur la droite, Laon Aon, base de tous les autres. Le jeune homme continua sa tâche. Ses doigts se déplaçaient vite, délicats, laissant derrière eux des sillages luminescents. Il compléta le carré au milieu, puis l'entoura de deux cercles plus larges. Laontia, symbole du voyage. Il ne s'arrêta pas là. Il traça deux longs traits depuis des angles opposés du carré, afin que Tia ne s'applique qu'à lui. Quatre autres aons plus petits sur le côté pour définir la distance à laquelle le symbole devait l'envoyer et une série de hachures au sommet pour lui indiquer d'attendre qu'il en tapote le centre pour se déclencher. Chaque trait, chaque point était dessiné avec précision. La longueur et la taille comptaient beaucoup dans les calculs. Il s'agissait d'un aon fort simple,
sans commune mesure avec les symboles curatifs incroyablement complexes que le livre décrivait. Mais Raoden tirait fierté du talent grandissant qu'il exhibait. Il lui avait fallu des journées entières pour maîtriser la série de 4 haons qui indiquait à Tia de le transporter exactement 60 coudées plus loin. Il contempla avec un sourire satisfait le dessin luisant qui finit par disparaître dans un éclair totalement inefficace.
« Tu t'améliores, Sulé ?»
Galadon se pencha sur l'appui de la fenêtre pour regarder dans la chapelle. Le prince secoua la tête. Son ami avait cessé d'essayer de le convaincre de l'inanité de ses études. Quoi qu'il puisse se passer par ailleurs, le jeune homme continuait de s'exercer chaque jour. Cela le réconfortait. La douleur refluait quand il traçait des haons et il se sentait plus apaisé durant ces quelques heures. « Comment se porte la récolte ? » demanda-t-il. Le Dula se retourna pour considérer le jardin. Les tiges de petite taille, à peine plus que des pouces, se desséchaient. La plupart des ouvriers agricoles avaient disparu au cours de la dernière semaine, si bien que seul Galadon s'échinait encore sur la ferme en miniature. Chaque jour, il se rendait au puits à plusieurs reprises afin de rapporter de quoi arroser son blé. Mais le seau que sa reine leur avait donné ne contenait guère d'eau et fuyait par-dessus le marché.
« Elle survivra. Rappelle-toi de demander à Karata de nous commander de l'engrais la prochaine fois. »
Raoden secoua la tête. « Impossible, mon ami. Le roi ne doit pas découvrir qu'on cultive notre propre nourriture. »
Le colosse se rembrunit. « Ma foi, je suppose que tu peux toujours réclamer du crottin à la place. »
« Trop évident. »
« Un peu de poisson, alors. Prétends que tu as pris goût au bruissin. »
Le prince hocha la tête en soupirant. Il aurait dû réfléchir avant de décider que le jardin se situerait juste derrière chez lui. Il redoutait par avance la puanteur du poisson pourri.
« Tu as appris cet haon dans ce livre ?»
Galadon s'accouda à l'appui.
« Qu'est-ce qu'il est censé faire ?»«
L'haon Tia ? Te transporter. Avant le Réode, il pouvait te déplacer des Lantris à l'autre bout du monde. Le livre en parle parce qu'il s'agissait d'un des plus dangereux.
« Dangereux ? » ?»«
Il faut être précis quand tu spécifies la distance à laquelle il t'envoie. Si tu lui dis de te transporter sur 3 mètres, il va le faire. Quoi qu'il puisse se trouver à 3 mètres. Tu peux te matérialiser en plein dans un mur de pierre. »«
Tu apprends beaucoup de ce bouquin, alors ?»
Raoden haussa les épaules. « Plus ou moins. J'y trouve des indices, surtout. » Il revint à une page qu'il avait marquée. « Ce cas, par exemple. » Une dizaine d'années avant le Réode, un homme a amené ici sa femme qui souffrait de paralysie agitante. Mais l'élantrien qui l'a soignée a mal dessiné l'haon Yen. Au lieu de disparaître, le symbole a jeté un éclair et baigné la pauvre femme d'une lueur rouge. Des marques noires ont surgi sur sa peau et ses cheveux n'ont pas tardé à tomber. Cela ne t'évoque rien ? Le Dula, intrigué, haussa un sourcil. Peu après, elle s'est jetée d'un toit en hurlant qu'elle ne supportait plus la douleur. Le colosse se rembrunit.
« Le guérisseur a mal dessiné un des éléments ?»«
Il a oublié un des 3 signes de base. Une erreur idiote. Mais elle n'aurait pas dû avoir un tel effet. » Raoden marqua une pause et contempla la page d'un air pensif. « On croirait presque... »«
Quoi, Sulé ?»«
Bon, là on n'était pas fini, d'accord ?»«
Colo ?»
Donc, peut-être que la guérison a commencé et n'a pas pu se terminer parce que les instructions étaient incomplètes. Et si l'erreur avait créé un haon viable, capable d'accéder au Dor, mais incapable d'en retirer l'énergie nécessaire pour finir ce qu'il avait commencé?
Qu'est-ce que tu sous-entends, Sulé?
Raoden écarquilla les yeux. Qu'on n'est pas mort, mon ami.
Nul battement de cœur, plus de souffle, pas une goutte de sang?
Ouais, tu as certainement raison.
« Si, je t'assure !» insista le jeune homme qui s'animait. « Tu ne vois pas ? Notre corps est piégé dans une sorte de demi-transformation. Le processus a démarré, mais quelque chose l'a bloqué, tout comme dans la guérison de cette femme. Le Dor est encore en nous, à attendre la direction et l'énergie qui lui manque pour terminer ce qu'il a commencé. »«
Je ne suis pas sûr de te suivre, Sulé, »
dit le colosse d'une voix hésitante. Raoden ne l'écoutait pas. Voilà pourquoi notre corps ne guérit pas. Il est captif d'un moment. gelé tel le poisson dans la glace. La douleur subsiste parce qu'il croit que le temps ne passe plus. Il est bloqué à attendre la fin de sa transformation. Les cheveux tombent sans repousser, la peau noircit là où le Shaod a commencé avant de s'arrêter faute d'énergie.
Je trouve que tu fais preuve d'une certaine imagination.
Certes, mais je crois bien que j'ai raison. Il y a quelque chose qui bloque le Dor, sans conteste. Je le sens à travers mes ahons. L'énergie essaie de passer, mais un obstacle s'y oppose, comme si les dessins des ahons étaient mal ajustés. Raoden leva les yeux pour dévisager son ami. Nous ne sommes pas morts, ni damnés. Juste inachevés.
Excellent, Sulé. Il ne te reste qu'à découvrir pourquoi.
Le jeune homme acquiesça. S'ils en savaient un peu plus, le vrai mystère, le motif de la chute des Lantris, subsistait.
Mais je suis ravi que le livre t'ait été utile, reprit le Dula en repartant s'occuper de ses plantations.
Raoden inclina la tête. Une minute, Galadon.
Le Dula se retourna et lui adressa un regard perplexe.
Tu ne t'intéresses pas vraiment à mes recherches, hein? Tu voulais simplement savoir si ton livre m'avait servi.
Et pourquoi est-ce que je voudrais savoir un truc pareil? S'esclaffa le colosse.
Je l'ignore. Mais tu tiens plus que tout à ta bibliothèque. Tu ne l'as montré à personne et tu n'y vas jamais. Qu'est-ce que cet endroit et ces livres ont de si sacré?
Galadon haussa les épaules. Rien. Je ne veux pas qu'il s'abîme. Voilà tout.
Mais comment as-tu déniché cet endroit?
Raoden alla s'accouder à l'appui de la fenêtre.
Tu disais ne vivre ici que depuis quelques mois, mais tu parais en connaître la moindre ruelle. Tu m'as mené tout droit à la banque où se terre Shaor. Pourtant, le marché n'est pas de ces endroits qu'on explore au hasard.
Le colosse, qui semblait de plus en plus mal à l'aise, finit par marmonner.
On ne peut donc garder aucun secret. Il faut que tu saches tout de moi, quitte à me l'arracher.
Raoden recula, surpris par cette véhémence.
Je suis navré, bredouilla-t-il. Il se rendait compte à présent du ton accusateur de son discours. Galadon lui avait pourtant offert son soutien inconditionnel et depuis le début. Embarrassé, il se détourna pour le laisser en paix.
« Mon père était élantrien, » murmura l'autre.
Le jeune homme s'immobilisa. Du coin de l'œil, il vit son ami assis sur le sol qu'il venait d'arroser, examiner une frêle tige de blé devant lui.
« J'ai vécu avec lui jusqu'au jour où j'ai été en âge de partir. J'avais toujours jugé malvenu pour un Dula de résider en Arelon, loin de son peuple et sa famille. Ce doit être pour cette raison que le Dor a choisi de m'affliger de la même malédiction. On répétait qu'Elantris était une cité bénie entre toutes. Or, mon père n'y a jamais été heureux. J'imagine que, même au paradis, il y en a qui ont du mal à s'intégrer. Toutefois, il est devenu très érudit ici. La bibliothèque que je t'ai montrée était la sienne. Mais il pensait toujours au Duladel. Il a étudié l'agriculture, ce qui ne servait à rien ici. Pourquoi cultiver la terre quand on peut changer les ordures en nourriture?
Galadon soupira, tendit la main et prit une pincée de terre. Il la fit rouler entre ses doigts, puis la laissa couler sur le sol.
Il a regretté de n'avoir jamais étudié la médecine quand il a trouvé ma mère à l'agonie auprès de lui dans leur lit un matin. Certaines maladies agissent si vite que même Elantris n'y peut rien. Mon père est devenu le seul Elantrien déprimé que j'ai connu. J'ai compris alors que ces gens n'étaient pas des dieux, car un dieu n'aurait jamais éprouvé pareil chagrin. Il ne pouvait pas rentrer chez lui. Les Elantriens étaient déjà des exilés en ce temps-là. Nul ne veut côtoyer quelqu'un dont la supériorité vous rabaisse à ce point. Il était heureux de me voir retourner en Duladel. Il m'a conseillé de devenir fermier. Quand je l'ai quitté, ce pauvre dieu esselé dans cette cité divine, il ne souhaitait rien tant que la liberté qu'offre la normalité. Il a rendu son dernier soupir un an plus tard. Les Elantriens pouvaient succomber à une affection aussi banale qu'une faiblesse de cœur. Tu le savais? Il vivait bien plus vieux que les gens ordinaires, mais il pouvait mourir, surtout s'il le désirait. Mon père, lui, connaissait très bien les symptômes de sa maladie. Il aurait pu aller se faire soigner, et pourtant, il a choisi de rester dans sa bibliothèque, pour disparaître.
disparaître comme ces Aons que tu passes tant de temps à dessiner.
Donc tu détestes Elantris ?
Raoden se glissa sans bruit par la fenêtre et s'approcha de son ami pour s'asseoir en face de lui. Il le dévisagea par-dessus le plant de blé.
« Je ne déteste rien. Ce n'est pas notre façon. Grandir ici, près d'un père rempli d'amertume, a fait de moi un médiocre exemple de Dula, bien sûr. Tu as constaté que j'échoue à prendre les choses à la légère. Surtout, je vois une souillure, comme la boue des Elantris. De par mon attitude, on m'évitait. J'ai presque éprouvé de la gratitude quand le Shaod m'a pris. Même si j'adorais cultiver mes champs, je cadrais mal avec le Duladel. Je mérite cette cité, et elle me mérite. Colo. »
Le jeune homme hésita. « J'imagine qu'un commentaire optimiste ne servirait à rien, dans l'immédiat. »
Le colosse eut un mince sourire.
« Ah, rien du tout, non. Ce qui échappe à l'optimiste, c'est qu'un pessimiste n'a aucune envie qu'on essaie de le réconforter. Ça le rend malade.
Alors laisse-moi te dire une vérité vraie, mon ami. Je t'apprécie. Je ne sais pas si tu cadres avec cette cité. Je doute qu'aucun de nous se trouve dans ce cas. Mais ton aide m'est précieuse. Si la nouvelle Elantris doit renaître, ce sera parce que tu m'auras empêché de me jeter d'un toit. »
Galadon prit une profonde inspiration. Son visage n'avait rien de joyeux, mais paraissait reconnaissant. Il hocha la tête, se leva et tendit la main pour aider le jeune homme à en faire autant.
Si Raoden s'agitait dans son lit qui n'était guère qu'un tas de couvertures dans l'arrière-salle de la chapelle, l'inconfort n'avait rien à voir avec son insomnie. Un souci le tenaillait. Il avait laissé passer un détail important. Il le tenait presque, un peu plus tôt. Et son subconscient le harcelait pour qu'il s'en rappelle. Mais de quoi s'agissait-il? Quel indice, à peine entrevu, le hantait? Après sa conversation avec Galadon, il avait repris sa pratique de l'Aon d'or. Puis il avait effectué un bref tour de ville. Tout était calme. Les sbires de Shaor ayant cessé leurs attaques sur la nouvelle Elantris pour se concentrer sur les promesses que représentaient les visites de sa reine. Cela devait se rapporter à ses discussions avec le Dula. Au père de son ami, peut-être. À quoi cela ressemblait-il d'être Elantrien, alors? Pouvait-on vraiment souffrir de dépression entre ces murs stupéfiants? Qui, s'il était capable de miracles sans pareil, aurait voulu vivre la vie d'un simple fermier? Ce devait être si beau ici.
Domu miséricordieux !
S'écria Raoden en se dressant sur son séant. Un instant plus tard, Saolin et Maresh, qui couchaient dans la pièce principale, accoururent. Galadon et Karata les suivaient de près. Ils trouvèrent le jeune homme assis sur sa couche, l'air stupéfait.
Sulé ?
Demanda le Dula avec prudence. Raoden se leva et sortit à grands pas, suivi d'un entourage perplexe. Il s'arrêta juste le temps d'allumer une lanterne, sans se soucier de la puanteur de l'huile fournie par sa reine, puis il se dirigea tout droit vers la maison des déchus. L'homme s'y trouvait, qui murmurait sans relâche comme le faisaient les Oèdes même en pleine nuit. Petit, il avait la peau si ridée qu'il paraissait avoir 1000 ans. Sa voix poursuivait sa mélopée tranquille.
« Beau !» disait-il d'une voix rauque. « Si beau jadis !»
Le prince le dévisagea. L'indice ne provenait pas d'une de ses discussions avec Galadon, mais de sa visite, la veille, lorsqu'il était passé livrer de la nourriture aux Oèdes. Il avait entendu cet individu marmonner ses mots bien des fois, et il n'avait jamais fait le rapprochement. Il posa les mains sur ses épaules. « Qu'est-ce qui était si beau ?»«
Si beau !»
« Vieil homme !» S'il vous reste un soupçon d'âme ou un embryon de pensée rationnelle, je vous en conjure, répondez. De quoi est-ce que vous parlez?
Si beau jadis.
L'autre regardait dans le vide. Raoden leva une main et se mit à dessiner devant le visage du vieillard. Il avait à peine fini l'Aon Rao que l'autre pointa son doigt et le passa à travers le centre du caractère.
J'étais si beau jadis, murmura-t-il. J'avais des cheveux d'or fins et la peau éclatante. Des Aons voltigeaient au bout de mes doigts. Ils étaient si beaux.
Le prince entendit des exclamations étouffées de surprise derrière lui. Karata s'avança.
Quoi ? Depuis lors, il...
10 ans. Raoden soutenait toujours le corps frêle. Il y a 10 ans, avant le Réode, c'était déjà un élantrien.
Impossible ! Lança Maresh. Il s'est passé trop de temps !
Et où pouvait-il aller ? Rétorqua le jeune homme. On sait que certains élantriens ont survécu à la chute de la cité et du gouvernement, puis se sont retrouvés enfermés ici. Quelques-uns ont pu s'immoler, d'autres, plus rares, ont pu fuir, mais, dans leur majorité, ces gens seront restés là pour devenir des Oeds, perdre l'esprit, perdre leur force, et finir en épave de par les rues.
10 ans, souffla Galadon. 10 ans d'agonie.
Raoden observa le vieillard, son visage crevassé, son air hébété comme après un grand coup sur le crâne. Caché dans cet esprit, il y avait les secrets de la Hondor. Soudain, l'autre resserra imperceptiblement sa prise sur le bras du prince. Son corps frémissait sous l'effort. Et, à grand-peine, il émit 3 mots d'une voix sifflante, le regard voilé par la souffrance.
« Emmenez-moi là-bas. »
« Où ? » demanda Raoden, perplexe. « Hors de la cité ?»«
Au lac. »«
Je ne comprends pas. » L'autre tourna alors son regard vers la porte. Raoden le souleva à bras-le-corps. « Karata, la lanterne, là !»« Galadon, viens avec nous. Maresh, Saolin, restez ici. Je ne veux pas que nos compagnons se réveillent et s'aperçoivent de notre absence. »«
Mais... »
Le soldat se tut. Il savait reconnaître un ordre. La nuit était claire, la lune pleine et la lanterne presque inutile. Le vieillard n'ayant plus la force de pointer son doigt, le prince qui le portait avec précaution s'arrêtait à chaque intersection pour observer vers où il dirigeait son regard. Cela prit du temps. L'aube pointait quand ils atteignirent un bâtiment effondré, mais au toit presque intact, non loin du mur d'enceinte de la cité.
Une idée de sa nature ? Demanda Raoden.
Galadon réfléchit, fouillant sa mémoire.
En fait, je crois que oui, Sulé. C'était un lieu de réunion pour les élantriens, si je me rappelle bien. Mon père y venait parfois, mais je n'ai jamais eu la permission de l'accompagner.
Karata le toisa, ébahie, mais elle garda ses interrogations.
Raoden transporta dans l'édifice caverneux et quelconque le vieillard qui fixa son regard par terre. Galadon s'agenouilla et balaya d'un revers de main les décombres accumulés sur le sol.
« Il y a un Aon ici. »«
Lequel ?»«
Rao, je crois. »
Le jeune homme fronça les sourcils. Comme il le savait, cet Aon signifiait « esprit » ou « énergie spirituelle ». Mais le livre sur la Hondor en parlait peu et n'expliquait nulle part quel effet magique le symbole était censé produire.
« Appuie dessus » suggéra-t-il.
« J'essaie, Sulé !»
Le colosse grogna.
« Je ne crois pas que ça... »
Il s'interrompit. Le sol se dérobait sous lui. Poussant un cri, il recula précipitamment et un bloc de pierre s'enfonça à ses pieds dans un crissement sonore. Karata s'éclaircit la gorge et désigna le symbole gravé sur le mur qu'elle venait de presser. Il s'agissait de la Hontae, qui signifiait « ouvert ».«
Je vois des marches, Sulé !»
Galadon s'y engagea, suivi de Karata. Raoden les rejoignit après leur avoir passé l'Oed qu'il reprit dans ses bras au pied de l'escalier.
Astucieux mécanisme, reprit le Dula en examinant les gros rouages qui permettaient de manœuvrer l'énorme bloc.
Maresh en perdrait la tête, Colo.
Je m'intéresse plutôt à ces murs, murmura Raoden. Les parois de la pièce où ils avaient débouché, un rectangle bas de plafond divisé par 2 rangées de colonnades sculptées, était décoré de superbes fresques.
Levez la lanterne.
Des silhouettes à la peau argentée et aux cheveux blancs, occupées à diverses activités, peuplaient les murs. Certaines s'agenouillaient devant des aons colossaux. D'autres allaient en rang, inclinant la tête. Les scènes dépeintes paraissaient empreintes de formalisme.
Un endroit sacré, décida Raoden. Un lieu de pèlerinage.
Une religion chez les élantriens ?
S'étonna Karata.
Ou ce qui en tenait lieu. Ils n'étaient peut-être pas aussi sûrs de leur nature divine que le reste de l'Arelon.
Le jeune homme interrogea Galadon du regard.
Mon père ne m'a jamais parlé de religion, dit ce dernier. Mais ces gens-là avaient bien des secrets,
même envers leur propre famille.
Là-bas !
Karata désignait l'autre extrémité de la salle. La fresque qui occupait tout le mur représentait un ovale bleu miroitant devant lequel un élantrien se tenait debout, les bras levés et les yeux fermés. Il paraissait voler en direction du disque bleu. Le reste du mur était noir, à l'exception d'une grande sphère blanche à côté de l'ovale.
« Lac !»
Loed parlait d'une voix faible, mais insistante.
« La scène est vue du dessus !» s'écria soudain Karata. « Le personnage tombe dans le lac !»
Raoden opina du chef. En effet, l'élantrien de la fresque ne volait pas. Il tombait. L'ovale était la surface du lac, et les lignes qui le bordaient figuraient le rivage.
« On croirait que l'eau représente un portail, non ?»
souffla le Dula, la tête penchée sur le côté. « Et il veut qu'on l'y jette, » devina le prince.
« Galadon, tu as déjà assisté à des funérailles ici ?»«
Non, jamais. »«
Venez. »
Le jeune homme observait le vieillard dont le regard se portait sans cesse vers un passage latéral. Celui-ci menait à un endroit encore plus stupéfiant. Karata brandit sa lanterne d'une main tremblante.
« Des livres !» souffla Raoden, excité.
La lumière jouait sur les rayonnages qui se perdaient dans l'obscurité de la vaste salle. Ils s'avancèrent, impressionnés par l'antiquité du lieu. La poussière recouvrait les étagères et le sol sur lequel leurs pas s'imprimaient.
« Tu as remarqué, Sulé ?»
murmura Galadon. Karata fut la première à s'en rendre compte.
« Pas de boue !»«
Voilà, » dit le Dula.
« C'est vrai ?»
Raoden en resta ébahi. Il s'était tellement habitué aux rues propres de la nouvelle élantrice qu'il avait presque oublié la quantité de travail nécessaire pour obtenir un tel résultat.
« J'en ai toujours vu dans cette ville, » dit Galadon. « Même la bibliothèque de mon père en était pleine, avant que je ne la nettoie. »
« Il y a autre chose, »
dit le jeune homme en considérant le mur de pierre le plus proche.
« Regardez là-haut. »
« Une lanterne, »
constata le Dula surpris.
« Il y en a tout le long des murs. »
« Pourquoi ne pas utiliser des ahons? Il y en avait partout ailleurs. »
« Je l'ignore. Je me suis posé la même question à propos de l'entrée. Si ces gens pouvaient créer des ahons capables de les transporter n'importe où, pourquoi se donner la peine de fabriquer ce mécanisme ?»«
Tu as raison. L'ahon d'or devait être interdit pour une raison ou pour une autre, »
suggéra Karata, alors qu'ils atteignaient l'extrémité opposée de la bibliothèque.
« Pas d'ahon, pas de boue, » dit soudain le Dula. Une simple coïncidence ?
Peut-être.
Raoden observa le vieillard dont le regard indiquait une petite porte sculptée de la même scène que la fresque à l'ovale bleu. Galadon l'ouvrit, dévoilant un long couloir taillé dans la roche qui paraissait s'étirer à l'infini.
Doloken, où est-ce que ça conduit ?
Dehors, je pense.
Ce vieux bonhomme nous a demandé de l'emmener hors d'élantrice. Karata s'engagea dans ce tunnel, en effleurant du bout des doigts la paroi lisse. Les deux amis lui emboîtèrent le pas. La pente s'accentua, au point qu'ils durent faire des haltes pour se reposer, affaiblis qu'ils étaient par leur nature d'élantriens. Lorsqu'un escalier pareillement interminable se présenta, ils se relayèrent pour porter le vieillard. Il leur fallut une bonne heure pour atteindre la fin du passage. Une porte en bois sans apprêt. Galadon l'ouvrit d'une poussée et déboula dans la pâleur de l'aube.
On est en haut de la montagne!
Raoden le suivit et se retrouva sur un palier taillé à flanc de colline. La pente était rude, mais un chemin la dévalait en lacets qu'on discernait à peine. En bas, il y avait Kae, et plus loin, l'énorme monolithe du mur d'enceinte. Il n'avait jamais vraiment pris conscience de l'étendue de la cité. Kae semblait un village en comparaison. Tout autour des lentrices s'étalaient les vestiges spectraux des trois autres villes extérieures, tapis dans l'ombre de la capitale d'antan et déserté. Sans la magie d'autrefois, l'Arelon ne pouvait pas entretenir une telle concentration de population. On avait eu recours à la force pour évacuer ses habitants, devenus les ouvriers et les fermiers de Yadon.
Sulé, je crois que notre ami s'impatiente.
Raoden baissa les yeux sur Loed, dont le regard revenait sans cesse sur le sentier qui s'élevait du palier. Et encore de l'ascension, dit le jeune homme avec un soupir.
« Pas bien longue, » dit Karata de plus haut. « Jusqu'ici. »
Ils la rejoignirent et découvrirent la corniche surplombant le palier.
« Lac !»
murmura l'homme, épuisé et satisfait.
Raoden fronça les sourcils. Le lac n'atteignait pas 3 mètres de profondeur. C'était plutôt une mare, quoique d'un bleu cristallin. Aucun cours d'eau ne s'y jetait, ni n'en sortait.
« Et maintenant ?» demanda Galadon.
« On l'y baigne, je suppose. » Le prince s'agenouilla et immergea son fardeau dans le bassin. Après y avoir flotté un instant, l'autre exhala un soupir de contentement qui suscita en Raoden l'âpre désir d'être libéré de ses souffrances, aussi bien physiques que mentales. Les rides de Loed parurent s'atténuer, ses yeux se raviver. Il dévisagea le jeune homme avec une lueur de gratitude au fond du regard, puis il disparut.
« Dolokhen !» jura Galadon, tandis que le vieil élantrien fondait comme du sucre dans une tasse de thé d'Adolis.
En une seconde, le corps avait disparu sans laisser le moindre vestige. Ni chair, ni os, ni sang. « Je prendrai garde à votre place, mon prince !» suggéra Karata. Raoden baissa les yeux et constata qu'il se trouvait tout au bord de l'eau. En lui, la souffrance hurlait. Son corps frémit comme s'il savait combien le soulagement était proche. Il lui suffisait de succomber à l'invite et de se laisser tomber. Il se redressa et recula en trébuchant. Il n'était pas prêt. Il ne le serait qu'au jour où la douleur régnerait sur son esprit. Tant qu'il lui resterait un peu de volonté, il continuerait sans relâche de lutter. Il posa la main sur l'épaule de Galadon. « Quand je serai un Noed, amène-moi ici. Ne me laisse pas vivre une éternité de souffrance. »
« Tu n'es qu'un jeune élantrien, Sulé, » se récria le Dula. « Tu tiendras des années. »
La douleur s'aviva. Le prince sentit ses genoux se dérober. Sous couvert d'insistance, il raffermit sa prise. « Promets-le, mon ami. Jure-moi que tu m'amèneras ici. »
« Je te le jure, Raoden, »
dit le colosse d'un ton solennel, le regard soucieux. Le jeune homme hocha la tête. « Allons, venez. Un long trajet nous attend pour regagner la cité. »